pousser les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrer des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Sciencez-vous vous emmène au LUBEM, le laboratoire universitaire de biodiversité et d'écologie microbienne de l'Université de Bretagne occidentale. Je suis allé discuter du projet FungAdapt avec Ewen Krieger, Monica Coton et Emmanuel Coton. Ewen Krieger est postdoc au LUBEM. Il vient de terminer sa thèse sur un projet qui porte sur l'adaptation de champignons et leur domestication. Monica Coton, elle, est professeure des universités à l'UBO et travaille au LUBEM. Elle est spécialisée sur l'écologie microbienne, surtout sur les produits fermentés. Emmanuel Coton est également professeur des universités à l'UBO, directeur du laboratoire sous contrat UNRAE, réparti sur les sites de Quimper et de Plouzané. Il fait d'abord une thèse en œnologie sur la microbiologie du vin à Bordeaux, puis un postdoc d'un an en Afrique du Sud, puis un an et demi au Canada. Enfin, après 12 ans dans le privé, il devient professeur des universités. Aujourd'hui, il travaille sur différents types de micro-organismes et de moisissures. Ils nous parlent tous les trois du projet FungAdapt, à commencer par Emmanuel Coton.
Le projet FungAdapt, c'est un projet donc de l'Agence nationale de la recherche, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Ça veut dire qu'on a passé plusieurs étapes. Et c'est un projet qui est plutôt basé sur ce qu'on appelle de la recherche fondamentale, où on essaye de comprendre, en fait, et d'étudier les pénicilliums, ces fameuses moisissures, qui sont associées à différents types de produits fermentés qui sont utilisés par et consommés par l'homme depuis des siècles, voire des millénaires dans certains cas. Et ce faisant, eh bien, on a eu une pression sur ces champignons qui font qu'ils ont évolué. Et donc, ça fait l'objet de ce projet. On avait comme modèle aussi bien des fromages, comme par exemple tout ce qui est les fromages type camembert ou au brie, donc avec Penicillium camemberti. On avait également les bleus, ce qu'on appelle les pâtes persillées avec Penicillium roqueforti, et ça c'est vraiment l'objet d'étude principale de ce projet. Et on avait également, avec nos collègues donc de l'équipe ESE à Paris-Saclay, qui sont les autres participants de ce projet, il n'y a que seulement deux équipes, on a travaillé sur les produits carnés, type les saucissons et autres, là aussi où des moisissures sont utilisées pour ces fabrications. Donc dans l'ensemble, c'était voir comment ces pénicilliums sur des produits fermentés traditionnels, et des produits qui sont participants de la gastronomie de la culture française et plus largement européenne pouvaient avoir été impactés par leur utilisation depuis de nombreuses années.
Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que ceux que vous venez d'exposer ? Des fois, il y a des objectifs secondaires, etc. Je me dis, on ne sait jamais.
Alors, sur ces champignons, on avait une grande première vision qui était la diversité, quand même. Qu'est-ce qu'on a dans ces produits, même s'il y a des choses qui sont bien connues. L'autre objectif, c'est effectivement un objectif secondaire. Pour ceux qui sont moins bien connus ou pour des populations, c'est par exemple voir si elles ont des potentialités différentes, par exemple en termes de production de métabolites. Ça, c'était un objectif secondaire, mais vraiment secondaire.
Comment a commencé le projet ? C'est parti de quelle envie ? Comment ça s'est monté, etc.
L'envie, elle existait depuis longtemps. On travaille depuis de nombreuses années donc avec l'équipe du professeur Tatiana Giraud et notre collègue Jeanne Ropars, donc de cette équipe à Paris-Saclay, qui s'appelle ESE, et qui est une unité avec des membres CNRS. Et eux, comme nous, nous nous intéressons donc à ces pénicilliums de longue date. Et il y a une vraie complémentarité entre les deux équipes. Eux travaillent beaucoup sous l'angle justement évolution génétique, génomique, en faisant de la comparaison génomique. Et nous, on a toute une valence sur le comportement du champignon, sa croissance, sa germination, et également donc la physiologie, la modélisation de cette croissance, mais également tout ce qui est production de molécules d'intérêt, comme ça a été dit précédemment, qui peuvent être soit d'impact positif, soit impact négatif. négatif. Donc c'était une manifestation de, je dirais, d'aller plus loin dans un contexte plus formel et aussi avec des financements, parce que c'est important dans nos domaines que d'avoir les fonds pour pouvoir réaliser les travaux, de liens qui existaient. Et c'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui a permis que ça passe plus facilement, c'est qu'il y avait un historique de travail commun fructueux depuis des années.
Comment ça se déroule concrètement? Qu'est-ce que vous faites, on va dire, au jour le jour, Ewan?
Il y a plusieurs étapes qui sont importantes quand on veut s'intéresser comme ça à des populations de champignons. Donc il y a une première étape que moi j'ai moins réalisée, mais qui a été réalisée en amont dans les deux laboratoires, c'est des étapes d'échantillonnage. Donc d'abord, c'est se fournir donc des matrices dans lesquelles on va trouver nos champignons d'intérêt. Donc ça peut être des matrices qui sont fromagères, donc directement les produits pour lesquels on veut déterminer donc les caractères adaptatifs, mais également là des matrices qui seront plutôt extérieures pour justement savoir quelles sont les différences entre des champignons qui viendraient d'autres environnements et ces champignons domestiqués. Et donc c'est justement ces différences qui vont nous informer sur ce qui a été les spécificités de la domestication, enfin les implications de la domestication sur les populations domestiquées. Donc il y a une grosse phase qui est de récupérer finalement des substrats, d'isoler les champignons de ces substrats. Ensuite, une fois qu'on a cette banque, ça va être donc d'extraire finalement leur génome pour avoir une première idée sur le génome et la diversité intraspécifique donc à l'intérieur de l'espèce. Donc ça nous permet donc de savoir un petit peu si on est confronté à des populations particulières dans l'environnement qu'on caractérise ou si c'est la même chose un petit peu partout, auquel cas on pourra postuler qu'il n'y a peut-être pas particulièrement une domestication, ou alors on a trouvé que des environnements domestiqués. Donc du coup, là, on est obligé de comparer avec d'autres espèces. Et donc là, ça va être une première information. Donc est-ce qu'on a globalement une domestication? Et ensuite, nous, c'est aussi une caractérisation donc, physiologique qui va consister à prendre donc, ces différents isolats, donc ces différentes souches du Pinicium qui peuvent venir donc, de différents environnements et de différentes populations. Donc associé à une matrice, à un fromage par exemple, pour moi ce qui m'a intéressé, mais également donc, on a des populations qui sont liées à des ensilages, donc, par exemple aussi donc, c'est des contaminants sur certains produits. Et donc du coup de chercher à déterminer quels sont les paramètres de croissance en fonction donc, de conditions qui sont en lien avec leur environnement, donc des caractéristiques comme la salinité, qui est très importante dans les fromages, qui est absente quasiment donc, dans les ensilages, enfin, qui est très rarement présente dans les ensilages. Du coup, là, de comparer les comportements en termes de croissance entre les souches, donc ça, c'était une première approche. Deuxième approche, ça peut être de faire des extractions à partir donc, des cultures des micro-organismes, donc ça peut être dans des matrices qui sont proches de celles dans lesquelles on les retrouve, donc les fromages, ou d'autres qui potentialisent les productions de métabolites, pour comparer si on a des différences de production de métabolites entre nos populations. Donc là aussi, ça peut être des facteurs d'adaptation dans un environnement général, parce que les métabolites vont avoir un lien avec la compétition, avec de la communication, et qui peuvent être différenciantes suivant les milieux dans lesquels on les retrouve. Donc on a ces différentes étapes. Donc d'abord, trouver les souches, les caractériser donc d'un point de vue génétique, d'un point de vue physiologique, et ensuite métabolique également. Donc on a plein d'étapes de croissance, et donc au jour le jour, c'est de la croissance, c'est des extractions génétiques, métaboliques, et de la caractérisation ensuite, bioinformatique, pour faire des comparaisons statistiques entre les populations.
Sur ces aspects, je pense que si on veut avoir une vision un peu vulgarisée des choses, quand on a réussi à avoir des, dans le cas qui nous intéresse et qui intéressait Wayne, des Penicillium amphorti qui venaient de différents types de produits, comme il l'indiquait, c'est-à-dire des fromages, mais des fromages variés, des ensilages, mais du bois de coupe, des aliments qui ont été contaminés, on se retrouve avec une collection de représentants de l'espèce Penicillium amphorti. Et après, ces moisissures, elles ont un génome. Ce génome, c'est quoi? C'est de l'ADN qui est support de l'information génétique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter, grâce à des outils de bioinformatique, comme il l'a dit, les différences, s'il y en a, entre ces individus. Et grâce à ces approches qui sont complexes et dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, on a réussi, avec nos collègues parisiens, à montrer, par exemple, l'existence de 5 populations. Ça veut dire qu'il y a un lien entre des génomes, des données génétiques, et une niche environnementale, un habitat. Par exemple, on a trouvé effectivement qu'il y avait 5 niches en l'état, hein, une cinquième vient d'être découverte. Il y a des lignées, on appelle ça des populations, qui sont très associées à des matrices laitières. Il y en a une qui est par exemple associée au Roquefort. Donc ça veut dire qu'il y a différentes souches qui sont associées typiquement, uniquement à ces produits qui ont une AOP. Hein. Il y a une autre population qui est strictement associée à un fromage qui s'appelle le bleu thermignon, hein, qui vient tout juste d'être montré. Et toujours dans les fromages, une population qui est par contre à l'utiliser partout dans le monde, a priori, hein, ou très très largement dans le monde, pour faire des bleus, que ce soit du Stilton, du Cabrales, ou des bleus qu'on peut avoir en France. Les deux autres populations sont de populations associées à des produits végétaux, donc de l'ensilage. L'ensilage, c'est quoi? C'est soit du maïs, soit une céréale qui est fermentée pour pouvoir être donnée en nutrition animale, en alimentation animale. Ou alors, le dernier, c'est effectivement ce qu'on appelle plus du bois de coupe ou des aliments contaminés. Donc, sur la base de cette grosse collection, on a vu qu'on avait des individus différents, des populations différentes, et au sein de ces populations, des individus. Et après, ben, tout le travail au quotidien, ça a été de voir s'il y avait des différences, pas uniquement génétiques, mais aussi qu'on appelle phénotypiques, c'est-à-dire des caractères qui sont différents. Elles n'aiment pas les mêmes températures de croissance, elles aiment bien l'acide lactique, elles aiment bien le sel, ou elles supportent le sel. Voilà, des différences qui sont... ou alors elles produisent des molécules qui sont différentes. Donc voilà, une caractérisation et génétique et phénotypique qui nous permet de mieux connaître cette espèce, qui est tout à fait intéressante parce qu'elle a deux visages. À la fois importante pour faire des fromages bleus, et à la fois, c'est un contaminant qu'on va trouver, par exemple, dans votre gruyère râpée au frigo.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
On est vraiment sur des questions là, de domestication, donc on est sur des questions quand même qui sont fondamentales, hein, qui sont de meilleure compréhension de comment l'homme a au fur et à mesure aussi façonné, puisque je ne suis pas rentré dans ce détail-là. Ce qu'on a pu voir, c'est que, toujours donc, dans le cadre de ce projet avec nos collègues parisiens, c'est que dans ces 5 populations que j'évoquais, il y en a 2 où il y a eu des événements de domestication, donc il y a des traces génétiques de domestication. Qu'est-ce que c'est que la domestication? C'est le fait d'avoir une évolution génétique sous pression humaine. Et donc, ce qu'on a pu voir en particulier, c'est qu'il y avait eu une réduction de la diversité, déjà dans celles qui sont utilisées dans Roquefort, un peu, mais surtout dans la population qui est utilisée pour faire les bleus, qu'on appelle une population, nous, non Roquefort, pour les bleus du reste du monde. Et ça peut poser des questions, hein, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a une biodiversité amenuisée, qui peut, à très long terme, interroger sur, par exemple, est-ce qu'on aura toujours des fromages qui seront différents ou des choses comme ça. Mais on est quand même sur un travail qui est très fondamental, hein, de compréhension de tout ce qui est différence en lien avec la domestication. Mais souvent, on a travaillé en domestication. Quand on pense à la domestication, on pense aux chiens, ouais. Hein, on pense à partir du loup, on pense au maïs aussi, hein, pour ceux qui s'intéressent à ça. L'intérêt de travailler sur les champignons, c'est que ce sont des modèles qui sont... vous n'avez pas besoin d'avoir des générations, d'attendre des générations ou la croissance d'un animal ou d'une plante. Ça se reproduit beaucoup plus rapidement. Les génomes, donc supports de l'information génétique, sont plus petits. C'est assez facile. Et aussi, on subit ça. Un autre exemple très connu de la domestication, c'est par exemple Aspergillus oryzae, hein, donc un autre moisissure, qui est utilisée dans plein de productions asiatiques, hein, de produits fermentés asiatiques. Et la domestication a fait quoi? Dedans, en particulier, a fait qu'il n'y a pas la présence des gènes associés à la production de mycotoxines qu'on va retrouver dans des parents proches. Hein. Donc, on a une sélection par l'homme sur des critères. Chez la vache, ça va être la production de lait, la tendreté de la viande. Et ici, on a de la sélection sur d'autres critères qui sont adaptés aux productions fromagères.
Ce qu'on n'a pas trop évoqué, en fait, c'était tout l'aspect un peu de la diversité fonctionnelle ou de diversité métabolique qu'on a parmi les différentes souches de Penicillium roqueforti qu'on a étudiées. Et ça, c'était un des résultats qui était assez intéressante et assez excitante, c'est de voir en fait que selon les niches à partir duquel en fait les différentes populations appartiennent, ils ont vraiment des empreintes spécifiques d'un point de vue ce qu'ils vont être capables de faire ou de produire, et en particulier au niveau de ces métabolites et des mycotoxines notamment. Et pour les adaptations de ces moisissures à leur niche, on voit pour les populations qui sont associées au fromage que justement ils ont perdu la capacité à produire certaines de ces mycotoxines, ce qui est quand même très très intéressant pour la production fromagère. Et donc ça, c'était quand même très très intéressant à observer. Et puis surtout dans la thèse d'Ewen, il a pu aussi l'associer à des empreintes au niveau des génomes, et on voit que il y a des mutations dans les voies de biosynthèse entre autres, qui fait que finalement ces souches qui étaient domestiquées ont perdu en fait la capacité de produire ces molécules qui peuvent être problématiques pour l'homme. Et donc ça c'était vraiment des résultats très intéressants. Et puis on va trouver dans d'autres populations d'autres empreintes de métabolites intéressantes avec une diversité assez impressionnante de ce que ces moisissures peuvent produire, qui peut aussi avoir un potentiel plus tard, peut-être en biotechnologie ou autre.
Et donc ça, c'est seulement une partie des résultats. Ça veut dire qu'il y en a plein d'autres aussi qui sont intéressants, peut-être certains moins intéressants à exploiter, etc.
Oui, bien sûr. Donc il y avait plein de résultats qui étaient obtenus dans le cas du projet. Il y avait aussi des résultats intéressants d'un point de vue des phénotypes de croissance qui étaient observés. On va trouver, par exemple, des associations à l'acide lactique ou des associations au sel, comme Ewen avait déjà évoqué, qui fait qu'on voit vraiment que certaines populations s'adaptent à leur niche et ils sont plus compétitifs, certainement, parce qu'ils ont acquis certaines gènes ou certaines voies de biosynthèse qui fait qu'ils s'adaptent très bien et qui vont coloniser efficacement ces niches-là.
Tu voulais rajouter quelque chose, Ewen?
C'est que, oui, du point de vue des potentiels que peuvent permettre ces recherches, donc il y a tout l'aspect biotechnologie, le fait de déterminer de nouveaux métabolites, ça veut dire qu'on peut éventuellement y trouver un autre usage, un nouvel usage. Donc par exemple, dans les métabolites produits et qui ne sont pas du coup utilisés depuis la production de pénicillium roqueforti, on peut trouver l'acide mycophénolique qui a un usage thérapeutique, dans certaines thérapies actuellement, notamment donc, pour éviter des transplantations. Même si là, c'est pas ces micro-organismes qui sont utilisés pour la production, pas éviter les transplantations, mais lors des transplantations, pour éviter donc, des réactions auto-immunes importantes. Donc du coup, c'est ça son usage. Donc on voit que c'est des métabolites qui sont aussi produits par Pénicillium roqueforti. Donc les nouveaux métabolites pourraient peut-être permettre donc, ce même type d'application. Mais aussi, en fait, là, ces approches de diversité permettent de montrer un instantané sur la diversité actuelle de Pénicillium roqueforti, éventuellement, quel type et quel mode de production pourrait être à conserver pour garder une diversité intraspécifique intéressante. Et donc, du coup, comment un petit peu plus intelligemment réfléchir à la suite de nos productions alimentaires. C'est aussi une ouverture que permet ce type de projet-là, en se disant de conserver certaines appellations fromagère, des petites appellations où il n'y a pas d'inoculation, des choses comme ça, permettent de conserver une diversité génétique qui serait perdue par ailleurs. Où on voit la population avec la plus faible diversité génétique, c'est celle qui est utilisée industriellement. Donc finalement, on voit aussi par ce type d'approche qu'on peut réfléchir au plus global à favoriser aussi conserver certains types de production pour conserver une diversité, pour pouvoir faire face à l'avenir, conserver une production de bleu pérenne, par exemple, parce qu'on aura gardé une diversité génétique importante dans l'espèce. Donc c'est aussi ça. Et pour ça, on a besoin de se renseigner sur les process actuels. Si chez Camemberti, on n'a pas cette diversité, par exemple, donc on peut avoir des problèmes. Chez Oryzae, on peut s'intéresser à cette diversité aussi, mais à chaque fois, il faut comprendre quelle est la diversité pour ne pas arriver à un moment où on sélectionne un seul clone et on ne peut plus s'en départir derrière, même si là, on peut trouver des solutions annexes pour résoudre nos problèmes. Mais ça permet aussi de faire face à ça sur le long terme.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
En fait, je pense qu'il y a un aspect intéressant juste à compléter, c'est le fait qu'a été créée une très, très large collection de souches de Penicillium roqueforti, qui sont, et ces souches sont hébergées aussi bien ici au laboratoire et dans notre collection de l'université qu'à Paris, entre autres. Après, bien entendu, il y a aussi des collections qu'utilisent les industriels, etc. Et donc, ça permet aussi de garder cette diversité et de faire une préservation à long terme pour pas que, justement, on ait une perte de toute cette richesse qui était explorée au cours de ce projet, entre autres.
Je rajouterai aussi un point, c'est que avait été montré en amont de ce projet que, par nos collègues parisiens, Jeanne Repars en particulier, qu'on pouvait créer, alors que ça ne l'avait pas été montré avant, de la sexualité, en fait, chez Penicillium roqueforti. Les moisissures sont capables de produire soit sous forme sexuée, soit sous forme asexuée. La forme, la sexualité chez roqueforti n'avait pas été observée et a pu être montrée par nos collègues. Et ça, c'est aussi intéressant parce que, en lien avec la diversité qu'ont évoqué mes collègues, on a pu voir aussi qu'on pouvait faire des croisements génétiques et donc régénérer aussi de la diversité. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut aller comme ça chercher, en lien également avec un travail qu'a fait Ewen, sur lequel je ne rentrerai pas parce que c'est très complexe sur les, ce qu'on appelle des travaux sur les QTL, peut-être faire de la sélection via des marqueurs pour justement avoir la typologie de moisissure que l'on souhaite pour telle ou telle application. On pense bien sûr au bleu actuellement, mais il peut y avoir d'autres produits à terme qui sont produits où on souhaite avoir des notes aromatiques de ça. Donc, et la collection, et les données, et la capacité à faire du croisement, ça permet de conserver et de générer de la diversité.
Quelles sont les prochaines étapes là, pour le projet FungAdapt
Donc, donc ce projet-là se termine à la fin de 2024. Hein. Donc, comme tout projet de recherche, en fait, si on a répondu à des questions, on a ouvert aussi tout un champ des possibles. On a effectivement beaucoup focalisé sur Penicillium roqueforti. Je pense que des questions de même type se posent sur d'autres micro-organismes d'intérêt. Je pense en particulier à Penicillium camemberti, qui n'a pas eu la même intensité d'études et où des questions se posent effectivement en termes de diversité. Donc, ce serait intéressant d'aller plus loin, de voir si elle existe, de la conserver. Donc, il y a un champ d'application sur d'autres moisissures, très clairement. Ça a été évoqué aussi, se posent des questions d'ordre sur les métabolites non connus à ce jour. À quoi ils peuvent servir, comment ils fonctionnent, dans quelles applications, sachant que là, c'est un peu, on va un peu à la pêche, puisque on va avoir déjà, il faut identifier la molécule, puis ensuite se poser la question dans quel domaine elle peut être utilisée. Comme on l'a dit, il y a des champs très vastes, ça va des antimicrobiens, la pénicilline évoquée, l'acide mycophénoïque en anti-rejet de greffe, donc il y a des applications qui peuvent être en médical, en agroalimentaire, donc y a le champ des possibles est très large. Hein, donc ça, c'est un travail de très longue haleine sur ce genre de choses. Donc il reste bon nombre de travaux à faire sur ces micro-organismes qui sont, comme je disais précédemment, des vraies usines métaboliques avec des potentialités tout à fait intéressantes.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Pour aller plus loin, Emmanuel Coton vous conseille les travaux de leurs collègues parisiens sur la domestication des champignons Penicillium du fromage. C'est à retrouver parmi les comptes rendus de l'Académie des sciences en septembre 2020. Sur les questions d'évolution, de manière générale, Emmanuel Coton vous conseille un ouvrage de Luis Quintana Morsi qui s'intitule « Le peuple des humains sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation ».
Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Science et vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Science et vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U,
Radio Calonne et Radio Balise et avec le soutien financier de l'ANR.